C'est bon? Ok. Je vais être gonflé, je vais encore vous demander de prier. Et je vais être encore plus gonflé, je vais vous demander de prier pour moi. Dans Éphésiens 6, 19, il écrit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Si Paul, il a besoin, compris pour lui, avant qu'il parle, moi je veux bien une petite prière, si vous voulez bien, pour ne pas vous dire trop de bêtises. Seigneur, je t'en prie.
Amen. Merci Seigneur pour Rémi. Et merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Merci parce que ce que Rémi va nous partager, c'est ta parole. Ta parole qui est la vérité. Vraiment qu'elle ne retombe pas à terre sans avoir produit son effet dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu lui donnes, qui est l'autorité de ta parole, Seigneur. Merci de le remplir par ton esprit. Merci de le rendre captif à ta pensée, à la vérité. Merci pour ce que tu vas nous donner au travers de sa bouche ce matin, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui du courage, Seigneur. Amen. Amen.
Merci beaucoup. Vous avez le bonjour et toute l'affection de l'Église Lumière des Nations. Je fais partie de cette Église de Lyon, dont les adolescents vont rejoindre les vôtres le week-end prochain. Et notre Église est bien impliquée dans ce projet, notamment avec Valérie et Pierre de chez nous. Et donc tout le monde pense bien à vous, vous embrasse. Ils savent que je suis là. On a passé un très bon moment hier à l'académie, je trouve, tous ensemble, je pense qu'on peut dire ça, on a vraiment été bénis, et voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être invité. Et ce qui était bien ce coup-ci, c'est qu'on m'a dit ce que je devais prêcher. Alors ça c'est bien, j'ai pas eu à me casser la tête sur ce que j'allais apporter, ce que le Seigneur me... Non, j'avais un programme, et donc je vais essayer de suivre ce programme. Et en fait les gars, David, Farid m'ont dit que vous étiez dans une série sur l'Église. Donc cet après-midi, on va faire quelque chose sur l'Église dans l'Apocalypse. C'était vraiment une demande officielle du Grand Collège des Anciens. Et ce matin, en fait, je n'avais pas saisi au départ que c'était aussi quelque chose qui était dans cette idée de parler de l'Église. Mais j'avais quand même comme thème, parle un peu de la mission. Et donc, il y a des connexions fortes entre ce que je vais dire et une série sur l'Église. Je lisais cet été un livre de Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez qui est Spurgeon. C'est un prédicateur et pas que prédicateur, évangéliste, pasteur, baptiste du 19e siècle. Quand je le lis, des fois il m'énerve. Il dit des trucs qui m'énervent. Et quand je le lis, des fois il dit des trucs tellement magnifiques. Et c'était une personnalité qui était assez fulgurante. Et ces hommes-là, ils ont des choses à nous apprendre. On ne prend pas forcément tout, mais il y a franchement des choses que Dieu a fait dans leur vie. Et parfois, plus le caractère est un peu exécrable, et plus Dieu travaille dedans, et plus ça fait des trésors. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai lu son livre, c'est la manière dont il parlait du zèle. Du zèle. Et je ne me rendais pas compte à quel point le zèle, c'était important. Et en fait, alors qu'on parle de mission, le zèle, tout de suite, est important. Vous imaginez. Et je vais vous lire deux phrases qu'il a dites qui m'ont touché. Il dit « Si on me demande quelle est chez le serviteur de Dieu la qualité la plus essentielle pour s'assurer de gagner des âmes à Christ, je réponds le zèle. Et si on me pose la question une seconde et une troisième fois, je ne changerai pas ma réponse. Mon observation personnelle me pousse à la conclusion qu'en général, le vrai succès est proportionnel au zèle du prédicateur. Des hommes grands ou moindres réussissent s'ils sont vraiment en vie devant Dieu et échouent s'ils ne le sont pas. » Et il dit encore, « J'aime beaucoup cette remarque de Murray McChain, « Dieu ne bénit pas tant les grands talents qu'une grande ressemblance à Christ. » En de nombreux cas, le succès dans le ministère remonte presque entièrement au zèle intense, une passion dévorante pour les âmes, à l'enthousiasme contagieux pour la cause de Dieu. Je pense que dans chaque cas, les hommes prospèrent dans les services de Dieu en proportion de l'intensité du feu sacré qui brûle dans leur cœur. » Il écrit bien en plus, hein. Alors, il y a un petit truc qui met mal à l'aise dans tout ce passage, c'est la question du succès. J'aime pas trop quand on me parle de succès quand il s'agit de la parole de Dieu. Alléluia! « C'est parti. Amen. Bon, commencez à se réjouir. Je vais pas commencer. Super. Eh bien, Jésus a dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Et donc, j'aimerais pas que vous croyiez que je vais faire une prédication pour le succès. Hein? Ce n'est pas du tout ça dont il est question. Quand Charles Spurgeon parlait du succès, il a mis un mot avant le mot succès, il a dit le vrai succès. Le vrai succès. Je pense qu'il faisait lui-même la distinction entre le succès du monde et le succès dans l'Évangile, le succès dans le royaume. Il parle là à des futurs pasteurs dans son école pastorale et il veut leur enseigner quelque chose de fort pour que leur ministère porte du fruit. Et en fait, vouloir que le ministère de quelqu'un porte du fruit, c'est ce que Jésus veut. Il nous dit de porter du fruit. Et Charles Spurgeon a découvert une clé, quelque part, du royaume de Dieu. Le zèle a quelque chose à voir avec les fruits de l'Esprit. Et moi, j'aimerais, en fait, que lorsque vous partirez dans 30, 40, 50 minutes, qu'il y ait quelque chose qui soit semé en vous, qui fait qu'il y ait du fruit qui soit porté. En fait, peut-être que vous pensez que quand vous venez à l'église, le moment où vous êtes vraiment le plus actif, c'est la louange. Et aujourd'hui, je ne veux pas que ce soit ça. Aujourd'hui, je veux que le moment le plus actif, c'est que vous participiez à cette graine que Dieu veut poser dans votre cœur, qui va faire germer le zèle en vous pour que demain, vous soyez actif dans votre vie et que vous brillez dans la société et dans cette ville. Donc Dieu, ce n'est pas moi qui réclame, Dieu veut qu'on écoute sa parole, activement. Personnellement, je crois que longtemps, j'ai eu peur du zèle. Je suis quelqu'un de passionné de caractère, mais j'ai eu peur du zèle. Parce que je trouvais que chez beaucoup de prédicateurs, le zèle, c'est du spectacle, c'est du théâtre, ça tape des pieds, ça transpire, ça crie. Mais je trouve que c'est charnel, ça se voit que c'est du fake. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Ce que je veux, moi, c'est le vrai zèle. Le vrai zèle. Il produit du fruit. Dans Matthieu 6,5, Jésus dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Il y a beaucoup de gens et des prédicateurs très connus, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Le vrai zèle, c'est ce feu qui brûle dans ton cœur, tellement fort pour les âmes perdues que tu ne peux plus te taire. Le vrai zèle, on le voit dans Acte 7, quand Étienne est face à ceux qui le lapident et qu'il continue à prêcher la gloire de Dieu. Le vrai zèle, c'est un feu jusqu'à la mort. Le vrai zèle, c'était une qualité dont les apôtres nous ont parlé. Ils ont prêché sur le zèle. Ils ont prêché sur les ailes. Mais avant de parler de ce qu'ils ont dit, j'ai envie de vous faire comprendre que les ailes est un attribut divin, une qualité qui est en Dieu lui-même. Dans Ésaïe 26, 11, il est écrit « Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas, ils verront ton zèle pour le peuple et ils seront confus. Le feu consumera tes ennemis. » Là, on parle du zèle de l'Éternel qui deviendra un feu contre ses ennemis. Le zèle est un feu qui consume. Et dans Ésaïe 37, verset 32, il est écrit « Car de Jérusalem, il sortira un reste. De la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Le zèle, c'est quelque chose qui, en Dieu, a double face. Il y a un zèle de jugement. Et on a fait toute une série sur le livre de l'Apocalypse. On arrive à la dernière prédication, là, la prochaine fois où je prêche dessus. On a fait toute cette série et on a vu le zèle de Dieu qui est un zèle qui consume. Un zèle de jugement. Et il y a quelques semaines, j'ai prêché sur la grande Babylone, la grande prostituée, la ville qui avait commercé avec tous les rois de la terre, qui s'était vautrée dans l'idolâtrie, la séduction et la luxure, et qui persécutait les témoins de Jésus. Et le zèle de l'Éternel a consumé cette cité en une heure. C'est le zèle jugement de Dieu. Parce que Dieu est zélé pour la justice. Mais il y a une autre face à ce zèle. Une autre. Le zèle de l'Éternel va susciter un reste des rachetés qui sortiront de Sion. Ce reste, même Paul il nous en parle dans Romains 11, 5. Ce peuple fidèle, ces Juifs qui n'ont pas perdu la foi, qui ont cru en Jésus quand il est arrivé, les apôtres qui nous ont enseigné l'Évangile, et au travers lequel le monde va être sauvé par l'Évangile. Le zèle de Dieu est aussi un zèle de grâce et de salut. Et donc vous comprenez que si je veux vous transmettre quelque chose sur le zèle, c'est d'abord de vous transmettre d'être les imitateurs de votre Dieu. Un Dieu qui sauve à cause de son zèle pour les âmes. À la croix, quand Jésus est mort, il a réconcilié les deux. Son zèle qui consume, qui est tombé sur le Fils. Son zèle qui sauve par la résurrection. Et nous, on est les enfants de Dieu. On est les porteurs de l'Évangile, de la croix. On est les témoins de son zèle. Le zèle, ce n'est donc pas quelque chose de charnel. C'est quelque chose qui nous traverse par l'esprit. C'est Dieu en nous qui agit. Est-ce que tu veux ce zèle, là ? Vous connaissez ce verset, car un enfant nous est né, le fameux verset de Noël. Un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, 6 ou 5, en fonction des versions. Le verset juste après, on le lit moins souvent, on s'arrête. Il est écrit: donnez à l'Empire l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de l'Éternel des armées devait produire l'accroissement du royaume de David, c'est-à-dire la venue du Messie, fils de David, et l'Évangile pour le monde entier. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un attribut de Dieu que je veux mieux connaître maintenant, le zèle. Alors cette qualité, nous devons la chérir parce que le salut du monde en dépend. C'est aussi simple que ça. Alors vous savez, on peut se dire non, mais tout est dans la main de Dieu. Oui, c'est vrai. Il a passé une alliance avec son Église pour qu'elle soit la lumière du monde. Et on ne peut pas s'échapper. Par amour fraternel, dit Paul dans Romains 12, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et gloire à Dieu, on voit cette affection chez vous. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Merci pour la sœur qui va auprès des migrants, parce que ton zèle montre que tu n'es pas dans la paresse, tu es active, bravo, bravo. Servez le Seigneur. On croit souvent que le zèle, c'est ce qu'on vit dans la louange. Et oui, il y a des sacrifices de louange, mais le zèle commence vraiment quand on sert le Seigneur. Je ne dirais pas qu'il commence, mais il se manifeste quand on sert le Seigneur. Et vous savez, ici, vous avez un ordre. Vous avez un ordre. Il y a écrit « Ayez du zèle ». Dans d'autres versions, « Soyez zélés ». C'est un ordre. Et donc, si tu n'obéis pas à cet ordre, tu désobéis. Et si tu désobéis à Dieu, tu pèches. Et si tu pèches, tu dois te repentir. Mince. Je ne me suis jamais repenti de mon manque de zèle. Punaise, les exigences de Dieu, c'est autre chose. Alors, un lien concernant la mission qui est très connue. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Alors certains traduisent que donne l'évangile, d'autres pour annoncer l'évangile. Une église qui veut marcher doit avoir les chaussures du zèle. Jésus le dit tout le temps, lève-toi et marche. Peut-être que tu as perdu ton zèle, ton feu sacré. Ça m'est arrivé, moi, de plus du tout avoir envie. Ça vous est arrivé à vous, certainement. Ça arrive à tout le monde. Soyez pas surpris que je vous dise ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. J'ai vécu des grandes dépressions, des moments compliqués, comme à peu près tous les prophètes. Et je dis pas là que je suis prophète, hein. Que même les plus grands hommes de Dieu, regardez leur vie, il y a des moments qui sont très durs. Et Jésus dit, si vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre, pardon. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous avez entendu ça? Si le sel perd sa saveur, on le jette dehors et il va être foulé par les hommes. Moi, c'est un des versets qui me fait le plus peur dans l'Évangile. Enfin, qui me faisait le plus peur. Parce que quand j'ai perdu mon zèle, ça veut dire que je vais être jeté? Que je vais être mis dehors? Que c'est fini? Peut-être que tu te dis ça. Mais moi, c'est fini. Quand j'étais jeune croyant, j'avais plein de zèle, mais c'était le début. Parce que je découvrais. Mais la vie chrétienne, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Et tu perds ton zèle, tu perds ta passion. Tu deviens aigri. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Moi, je trouve en fait que c'est une bonne question qu'il faut méditer. Si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Qui a créé le zèle? Qui a créé le sel? C'est Dieu. Qui peut redonner du goût? C'est Dieu. Arrête d'avoir peur. Dieu est l'auteur de la vie. Il a dit, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Tu crois qu'il n'a plus de réserve pour toi? Il n'y a plus d'essence? Il est petit, ton Dieu. Suite de ce passage, dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est au pluriel, c'est une ville, c'est l'Église. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. On est des protestants, on ne parle plus des œuvres alors, puisque tout est par la foi. Eh oh, la vraie foi, nous dit l'apôtre, hein, c'est celle qui produit des œuvres. Sans les œuvres, ta foi est morte. Sans les œuvres, ta foi est morte. Sans les œuvres, ta foi est une déclaration intellectuelle. Mais la foi vive, la vraie foi, a poussé tous les hommes de Dieu à faire ce qu'ils ont fait. C'est par la grâce que je suis ce que je suis. Et la grâce n'a pas été vaine, inutile, faible en moi. Mais j'ai pratiqué plus que tous les autres apôtres. Le grand apôtre de la foi seul, c'est l'apôtre des œuvres, c'est Paul. Amen. Amen. Ok. Si vous êtes fatigué maintenant, je m'en vais. Hein. Merci Seigneur dans Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est lui-même dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a deux endroits que moi j'ai expérimenté au monde pour retrouver ma saveur et mon goût. Et le premier endroit, c'est ma chambre. Dieu te le rendra. Il te rendra quoi ? Je ne sais pas trop, mais donne quelque chose. Et moi, je veux que tu me rendes mon zèle. Moi, je veux ce zèle. Et j'ai vraiment envie de passer un tout petit temps maintenant en vous disant, dans le lieu saint, il y a l'Éternel. Il est saint. J'ai déjà témoigné de ça, je retémoigne de ça. Quand j'étais jeune, à 19 ans, ça faisait 3 ans que j'étais chrétien, j'étais d'une famille athée. Avant ça, j'étais un petit loulou. J'avais plein de choses qu'il ne fallait pas faire. Et il est arrivé que j'ai rencontré une jeune femme et que j'ai eu une relation intime avec elle alors que j'étais chrétien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça faisait 2-3 ans que j'étais converti, je n'avais pas tout compris. Mais j'ai été frappé par Satan au milieu de ce péché. J'ai été accablé par des démons qui sont venus dans ma vie. Je faisais des cauchemars, une dépression. Je pensais avoir perdu mon salut. Je pleurais tout le temps. J'avais des pertes de mémoire. J'avais froid. Ma langue était sèche sur mon palais. Je désespérais de mon péché. Je me sentais mort à l'intérieur. Les plus grandes souffrances, elles ne sont pas que extérieures. Elles sont là, dans ton âme. Et là, franchement, je croyais que c'était fini pour moi. Quand je lisais la Bible, je me sentais condamné de toutes parts. Tout ce qu'elle me disait me renvoyait à la condamnation. Il n'y a aucune condamnation qui sont pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, c'est un beau verset, mais est-ce que je suis en Jésus-Christ ? Même les versets les plus efficaces pour vous témoigner l'amour de Dieu, ils ruisselaient sur moi. J'ai rencontré ma femme, Pauline, qui avait elle aussi fait une belle dépression quelques années avant, mais qui avait compris la grâce et qui m'avait dit, Rémi, attends pas d'être pur pour entrer dans le Saint des Saints. Entre dans le Saint des Saints et Dieu te purifiera. Et donc je suis allé dans une église, certains ont déjà entendu cette histoire, c'était l'église de Belleville, réformée, et quelqu'un a prié pour moi, un jeune homme, il devait avoir à peine 17 ans. Il a fait une magnifique prophétie sur moi en disant, à partir d'aujourd'hui, tu es tombé plus bas que jamais. Tu t'es vautré dans la poussière. Tu es retourné à ce que tu avais vomi. Mais l'Éternel te relève. Et j'ai eu une vision. Parce que j'avais peur d'entrer dans le lieu saint. J'avais peur d'être foudroyé par le jugement de Dieu. Que ce soit terminé. Peut-être que tu t'approches plus de Dieu parce que tu as trop de péchés. Tu as peur. Et là, j'ai eu la vision d'un grand verre, enfin, d'un grand pichet d'eau. Non, avant le pichet d'eau, j'avais un verre transparent. Et au milieu de ce verre, au bout, un bout de charbon. Et le bout de charbon, ça témoignait de quelque chose. Le verre aussi. Le verre, c'était moi. Le charbon, c'était le péché et les démons dans ma vie. Et Dieu dit, regarde ma solution de guérison. Un péché est venu du ciel. Et Dieu a rempli le verre. Et le charbon a monté tout doucement. Et il est sorti. C'était doux. Ce n'était pas une déparation sur le billard qui allait m'ouvrir le bide. Dieu est doux. Et il m'a dit, maintenant tu restes dans le lieu saint jusqu'à ce que tout soit purifié. Tu remplis ta vie de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que tout sorte. J'ai confessé mes péchés. Je suis allé chercher des gens pour prier pour moi. On a fait de la délivrance. Et Dieu a restauré la conviction que sa grâce surabonde là où péché abonde. Et mon zèle a redémarré. Mon envie de prêcher l'évangile a redémarré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais fait la vraie expérience de l'évangile. La grâce après que j'ai péché. Plus que ce que j'aurais cru. Je vous dis la vérité, encore aujourd'hui, j'ai du mal à me pardonner de ça. Mais Christ m'a pardonné. Et je demeure dans son pardon. Je ne sais pas ce que tu ne te pardonnes pas, mais je sais que ça a éteint ton zèle. Ça a éteint ton zèle. Et tu es dans la nostalgie. Tu te dis autrefois. Mais l'évangile est pour toi aujourd'hui. Le Saint des Saints est ouvert, le rideau est déchiré et tu peux aller trouver ta guérison, ta restauration, ta délivrance. Tu as des démons ? Parle-en ! On a peur dans l'Église de dire la réalité. Tu as des péchés récurrents, des péchés sexuels ? Parle-en ! Satan veut t'enfermer là-dedans et que surtout tu n'en sortes pas. Ça va être une prison. Arrête d'être dans le silence. Moi, je ne suis pas de ces églises-là. Je viens pas de ce milieu-là, de toute façon. Moi, je viens de la cité à la base, on parle. On parle fort même, on crie. Et ce n'est pas la bien-pensance chrétienne qui va me taire, faire taire. Je pêche. J'ai besoin de ton aide, frère, sœur, prie pour moi. Arrêtons les masques, les faux-semblants. Arrêtons de cacher les choses. Tout ce qui est mis en lumière devient lumière, non ? Pas de tabou, parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui peut dire à l'autre, « Moi, je suis mieux que toi. » Celui qui dit ça, c'est peut-être le pire de tous, le plus orgueilleux. Pourquoi dans l'Église, on a peur de faire sortir les choses ? Pourquoi ? Il y en a un qui est si beau, si bon, si grand que ça, plus grand que Jésus, qui a dit, « Je ne te condamne pas. » Si vous êtes un pharisien, vous n'avez rien compris. Vous êtes les ennemis de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de vous. Deuxième domaine où vous allez retrouver votre zèle, c'est la mission. Il y a ce beau proverbe français, « L'appétit vient en mangeant ». Et il y a ce beau proverbe que j'ai inventé, le zèle vient en œuvrant. Une chose que j'ai compris qui a transformé ma vie, et peut-être je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, Paul dit je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Je vois beaucoup de chrétiens tristes. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de chrétiens tristes ? Moi, je vous vois quand vous venez à l'église, vous regardez vos chaussures, je le vois. Je vois que vous êtes tristounet. Ça va pas. Vous êtes cafard. C'est pas normal. Jésus, il est venu donner la vie en abondance et t'as le cafard. C'est pas normal. Jésus a dit, j'avais parlé à mon cher frère Farid, j'ai dit, je vais leur dire comme ça. Est-ce que vous voulez vivre la présence de Dieu comme jamais vous l'avez vécu ? Vous voulez vraiment exulter d'allégresse dans sa présence ? Mais vraiment ? Ouais, vous voulez ça ? Ok, magnifique. Je sais comment il faut faire. Allez évangéliser. Ouais, je sais qu'il y en a, c'est... Eh oh, je croyais que tu allais me parler d'un concert de louanges. Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et je serai moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est où Jésus ? Il est où Jésus ? Avec ceux qui vont et qui font des disciples. Quand vous êtes devenu chrétien, chrétienne, vous avez tout quitté pour Christ. Les plaisirs, peut-être le succès, peut-être une carrière, tout quitté pour lui. Et lui, il est en mission et vous, vous êtes assis chez vous. Vous n'avez plus rien. Ni votre vie passée, ni le Christ. C'est caricatural ce que je dis, il est toujours avec vous. Et vous comprenez l'idée. Il donne une qualité de présence particulière à ceux qui sont en mission. Si moi, je vais dans la rue, alors je pose une question. Quelle est la prochaine fois où vous êtes sûr que vous allez évangéliser ? Qui sait quelle est la prochaine fois où il est sûr qu'il va annoncer l'évangile ? Levez la main si vous êtes sûr que vous allez annoncer l'évangile. Moi, je peux lever la main. Ah ! Il y a quelques-uns. Moi, demain soir, je suis dans la rue pour annoncer l'évangile. Comme tous les deux lundis. Et vous savez pourquoi j'y vais ? Parce que j'aime plus les pauvres que vous ? Parce que j'ai un plus grand cœur que les autres ? Parce que je suis un évangéliste incroyable ? Non, parce que j'aime Jésus. Et que je sais qu'il y sera. Et j'ai envie d'être avec lui. C'est pas une belle motivation, ça ? Vous n'êtes pas déjà vous n'avez pas déjà été avec un SDF, par exemple, lui donner à manger, vous sentez que Jésus est là. Et il a dit, si vous le faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Il est là dans ces moments, quand on est en train d'œuvrer, quand on annonce l'évangile, il est avec nous. Jésus est là quand on marche. Demandez-le aux disciples d'Emmaüs. Luc 24. Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous alors qu'il nous parlait de toutes ces choses ? Ils étaient en train de marcher. Vous êtes tristouné ? Allez évangéliser. Vous êtes tristouné ? Vous voulez voir la puissance de Dieu ? Vous voulez vivre la présence extraordinaire de Dieu ? Elle est là-bas. Je crois que Dieu fait exprès qu'on soit triste tant qu'on n'est pas en mission. Ouais, je vous le dis, je pense que stratégiquement, c'est balèze. C'est intéressant. Non mais, si vous voulez la louange, je comprends. Mais la plus grande et magnifique louange qui soit, c'est dans les cieux, hein, c'est pas ici. Donc si on est ici, c'est pour faire quelque chose. Paul, il le dit, hein, j'aimerais être éloigné, sortir de là, être auprès du Christ. Mais il a une mission à accomplir. Vous ne serez pas heureux dans ce monde si vous n'êtes pas en mission. Mais par contre, le zèle, il vient en même temps qu'on marche. Je vous le dis par expérience. Pour retrouver ton zèle, tu as besoin premièrement de redécouvrir que la grâce de Dieu surabonde. Que dans la présence de Dieu, dans le lieu saint, tes péchés les pires que tu pourrais imaginer, Dieu les a cloués à la croix. Parce que tu n'as aucun zèle si toi-même tu n'as pas reçu la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle tu vas annoncer ? Tu n'as pas de bonne nouvelle à annoncer quand pour toi, la grâce n'est pas efficace. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous ici. Actuellement. Et c'est pas la grâce qui n'est pas efficace. Hein. La grâce, elle est efficace, Paul, il le dit. Je pense qu'on va prendre, là, dans quelques minutes, peut-être un petit temps dans la louange, et on va juste se poser et aller dans le lieu saint. Et recevoir la grâce de Dieu qui surabonde. Et je vous dis, franchement, s'il y a des pleurs, s'il y a des cris, s'il y a même des manifestations démoniaques, je vais être content. Moi, ça ne va pas me stresser. Ok ? Je crois que j'ai une conclusion. Je vais regarder ce que j'ai écrit. Je n'ai pas de conclusion. Ils font ça, vous savez, dans les one-man shows. Allez, c'est fini pour moi. Plus de conclusion. Seigneur, je te prie maintenant pour cet enseignement sur le zèle. Quel privilège déjà de comprendre que le zèle, c'est un de tes attributs à toi. Merci Seigneur, parce que tes attributs, ton caractère, tes qualités, Seigneur, en fait, nous traversent par ton esprit. Et c'est ce que je prie pour cette église, c'est ce que je prie pour chacun et chacune qui sont là, Seigneur, que vraiment tu fasses maintenant un switch dans les âmes par rapport à ce qui se passe dans la mission, dans l'annonce de l'Évangile, seul et en église. Seigneur, je te prie que maintenant, ton feu sacré, ce feu de Dieu qui consume tes ennemis et qui brûle dans le cœur des grands évangélistes comme Étienne, comme Paul, puisse brûler dans chaque cœur ici, Seigneur. Et Seigneur, ton feu consume aussi, Seigneur, tout ce qui se met entre nous et toi. Consume le péché, consume les puissances démoniaques, viennent les éloigner, Seigneur. Je te prie maintenant que ton Esprit Saint tombe. Seigneur, je te prie de tout mon cœur maintenant. Je te prie de tout mon cœur pour cette magnifique église. Seigneur, réveille ton église. Ramène ton église, Seigneur. Endormie par le Covid, endormie par le péché. Réveille, Seigneur. Parce que nous sommes là uniquement pour être avec toi, uniquement parce que tu nous as envoyés dans le monde, pour être ta lumière. Seigneur, je prie pour une multiplication d'œuvres bonnes qui soient inspirées de ton esprit, qui fleurissent. Je prie pour des gens engagés, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Ah, quel bel exemple tu nous as montré. Ne priez pas pour le monde, mais pour ceux qui sont dans le monde. Jésus, que ta prière s'applique maintenant à l'Assemblée chrétienne de Marguerite. Tu as prié pour eux, Seigneur, avant ta mort. Et tu as montré un modèle extraordinaire parce que tu as dit, avant la croix, dans ta mission, toi qui étais en marche, ma joie est complète. Seigneur, que notre joie soit complète alors qu'on va à la mission jusqu'à la mort, Seigneur. Que nous trouvons cette joie surnaturelle, cette joie du royaume, Seigneur. Je prie pour ceux qui sont assis dans le sofa, Seigneur, qui sont là, stagnants, Seigneur. Ah, viens, viens, Seigneur, je t'en supplie. Viens, viens agiter les cœurs. Viens, Seigneur. Trouble la léthargie, Seigneur. Je voudrais inviter tous ceux, toutes celles qui savent qu'ils ont perdu leur sel, leur saveur, leur goût. Je voudrais vous inviter maintenant. Ta destinée, et j'aime pas ce mot, mais c'est pas grave, ta vocation, c'est pas d'être jeté dehors. Ta vocation, c'est pas d'être foulé aux pieds. Et si tu es là maintenant, tout en bas, avec cette montagne qui se met entre toi et Dieu, Dieu va la planir. Dieu va la planir. Peut-être même avoir un temps avec de la musique, j'aimerais, si vous voulez, peut-être qui peut porter ce moment dans la louange, si vous voulez bien. Et on va vous rester là, ceux dont j'ai parlé, ceux qui ont perdu leur saveur. Dieu veut faire un truc pour vous maintenant, là. Et on va le vivre. On va le vivre maintenant, là. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Éternel. Éternel. De là où tu es, tu peux le faire à haute voix, tu peux le faire dans ton âme. Peu importe, Dieu regarde au cœur. Si tu es dans cet état-là, si tu es dans cet état vraiment où tu as perdu ta saveur et tu le sais, j'aimerais que tu pries la prière que je vais prier, que tu me suives dans cette prière. Et Seigneur, je reconnais que j'ai perdu mon zèle, que j'ai perdu ma saveur. Je reconnais que j'ai perdu ma saveur. Et je te demande pardon. Je demande pardon pour les causes qui ont mené à ça. Je demande pardon pour mon manque de foi. Je demande pardon pour mes péchés qui m'éloignent de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux plus être dans cet état. Je ne veux plus être dans cet état, Seigneur, je t'en supplie. Sors-moi de cet état. Seigneur, je veux entrer dans ton lieu saint. Je veux entrer dans ton lieu saint, Seigneur. Et être transformé par ta présence, Seigneur. Je veux retrouver, Seigneur, ma communion avec toi. Comme avant. Seigneur, je veux même plus qu'avant. Seigneur, je veux être avec toi dans ce lieu saint, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Répands ta grâce sur moi. Ah, oh, merci, Seigneur, parce que le voile est déchiré. Je veux être comme David qui disait, je resterai dans le temple pour contempler ta beauté. Seigneur, je m'engage maintenant à passer beaucoup plus de temps dans ton lieu saint, à passer du temps dans ma chambre face à face avec toi, à laisser ton zèle et ton amour me traverser à nouveau. Seigneur, je crois qu'à la croix, tu as tout payé. Je crois que tout est accompli. Que le diable a menti à mes oreilles en me faisant croire que j'étais condamné. Pardon, Seigneur, d'avoir entendu ces mensonges. Pardon de les avoir crus. Pardon, Seigneur, d'avoir minimisé ton salut. D'avoir cru que mon péché est plus grand que ta grâce. Pardon, Seigneur, parce que tu as un amour infini et je veux le recevoir maintenant. Alléluia. Active en moi ta passion, ton feu par ton esprit. Renouvelle mon feu. Renouvelle ma passion, Seigneur. Je marchais à ton exemple. Toi, tu as vécu une passion sanglante. Je marchais à l'exemple d'Étienne. Je marchais à l'exemple de tous tes disciples qui ont couru la bonne course jusqu'à la mort. Je veux être de cette église-là, Seigneur. Et sans ton esprit, c'est impossible, Seigneur. Père, nous demandons à ton esprit maintenant. Nous te demandons ton esprit, Père. Nous te demandons ton esprit, Père. Parce que tu donnes à celui qui te demande. Seigneur, je te demande ton esprit, Seigneur. Oh! Je te demande ton esprit, Seigneur. À nouveau. Alléluia. Priez. Commencez à prier vous-même. Priez à haute voix. Parlez à Dieu. Ouvrez vos bouches. Soyez pas passifs. Levez-vous, marchez. Mettez-vous en marche. Mettez-vous en route. Ouvrez vos bouches. Parlez à votre Père. Allez. Il a tout fait pour avoir une relation avec toi personnelle. Parle-lui maintenant. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh. Parle-moi, mon enfant, parle-moi. C'est ça qu'il te dit. Parle-moi, mon enfant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Socorro, maman, ma fille, ta chère, maman. confesse ton péché. Si tu peux louer à haute voix, mais que tu n'arrives pas à parler à Dieu, c'est pas normal. Si tu as besoin d'un chant pour commencer à parler à Dieu, c'est pas normal. Parle-lui. C'est pas une religion. Viens voir les trésors que j'ai pour toi. Ma grâce n'est pas épuisée. Viens. Viens voir les trésors. Allez, passe le voile. Viens voir. Viens dans le lieu saint. Viens, je t'attends. Viens, je t'entoure. Viens. Viens près de moi. Je n'ai plus de colère. Je ne suis pas fâché. Tout est accompli. Viens, reçois cette guérison, reçois la grâce, Dieu. Viens, viens. N'aie pas peur des réactions des autres, n'aie pas peur si tu pleures, n'aie pas peur si tu cries, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alléluia. Socorro mai rattaché. La carrière rattachée. Oui, je sais, c'est une question directe. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas fléchi le genou devant le Seigneur? Mais peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est aujourd'hui que tu veux reconnaître que Christ est mort pour ton péché, il t'appelle à le suivre, c'est ton roi. Si tu veux ça, si tu veux le suivre parce que tu penses, oui, c'est vrai, Jésus, c'est le roi des rois. Si tu veux le suivre, si tu veux faire partie de son royaume, hériter de ses promesses, lui obéir, je veux vraiment que tu lèves la main, que tu te manifestes, tu dises, oui, moi, je veux. Il y a des jours pour décider. Il y a des jours pour entendre l'appel de Dieu, sa grâce. Et pour répondre. Pour répondre. Il y a des jours pour répondre. Est-ce que tu veux venir ? Est-ce que tu veux venir vraiment pour la première fois fléchir le genou devant Jésus? Vraiment? Est-ce que tu veux venir? Si tu veux venir, viens. Viens jusqu'ici, viens jusqu'à moi, je vais prier pour toi si tu veux venir. Même si ça fait peur. Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui sont en train de vivre quelque chose avec toi maintenant, pour te remercier. Te remercier parce que tu aimes tout le monde et que tu es en train d'agir dans divers cœurs, divers pensées en même temps. Parce que tu connais le besoin individuel de chacun et que tu es en train de faire du bien. Tu es en train de restaurer, tu es en train de raviver, tu es en train de bénir. Et pour ça, Seigneur, je veux te remercier vraiment. Parce que tu aimes tous tes enfants, parfaitement, pareillement. Merci, Seigneur. te remercie parce que c'est pas que le dimanche. C'est pas que quand il y a un peu de piano. C'est tout le temps. Je vais laisser la place peut-être à la présidence. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance. Si c'est le cas, je crois que il faut y aller.